Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
Bonjour Francis.
Salut Mario.
Alors, tu veux nous parler d'abord de l'entreprise québécoise Taiga, entreprise connue là, pour ses l'électrification de véhicules de loisirs.
Effectivement, Taiga s'était fait connaître là, pour des motos marines et motoneiges électriques. C'est un super beau concept, Mario, qui a vu le jour il y a plusieurs années maintenant de cela. Par contre, c'est une entreprise évidemment industrielle hein, qui fabrique ces biens de consommation-là et semble avoir beaucoup de difficultés justement à en fabriquer. Ce qu'on apprenait, là, c'est que pour l'année 2022, Mario, Taiga a été capable de livrer de mémoire le 104 unités. Donc 104 véhicules en tout, après avoir reçu plusieurs
dizaines de millions. Donc, tu peux pas avoir des milliards en revenus quand tu es capable d'en fabriquer et d'en livrer 100, là.
J'avais pensé m'en commander une, Mario, motoneige, là. Ouais. À un moment, c'était autour de 25 000 $ là. Donc, si on fait un petit calcul rapide, là, c'est certain qu'on n'arrive pas au milliard.
Non, mais mon point, c'est ce que je veux dire, c'est que si t'es pas capable de fabriquer, t'as beau avoir de la demande pour ton produit, puis avoir une rentabilité théorique sur papier, si t'es pas capable de fabriquer et de livrer les véhicules, t'as juste les revenus sur ceux que t'as vendus, là.
Effectivement, puis en fait, Mario, l'enjeu, c'est toujours le même. Tesla était passé par là à un moment donné, tu te rappelleras, tu sais, on avait un vrai doute sur sa capacité à livrer, et parce qu'en fait, de passer à l'échelle, quand on fait de la fabrication manufacturière à partir d'un produit qui n'existe pas du tout, c'est très, très, très difficile, et comme tu dis, même si chaque produit apporte une profitabilité en termes de marge brute, les coûts sont tellement importants d'infrastructures, de main-d'œuvre, de R&D, de distribution, que ça englobe là, vraiment tout. Et ça fait en sorte que l'entreprise là, cumule les pertes. Donc, ce qui s'est passé, ce qui est un peu particulier, Mario, c'est que ça faisait un bout de temps que les analystes disaient l'entreprise va manquer d'argent. Malgré tout, Taiga n'a pas réagi. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on apprend un peu de manière surprenante, c'est qu'en fait, il y a deux entreprises, donc enfin Investissement Québec et un actionnaire, le Northern Private Capital, qui ont allongé un nouveau montant de 40 millions de dollars de la firme. C'est sous la forme de dette, là, mais c'est une dette spécifique qu'on appelle une débenture convertible qui pourrait devenir de l'équité, donc qui pourrait devenir des actions de l'entreprise. Et si c'était le cas, ça diluerait énormément les actionnaires actuels. Et ce qui est particulier, c'est que Taiga prétexte que s'il n'avait pas eu l'argent, là, quasiment, elle allait fermer. Mais en fait, elle n'a pas consulté ses actionnaires. Donc, il se retrouve un peu le bec à l'eau. Puis là, ça pourrait éventuellement mener là, à des poursuites, Mario, là, d'actions existants, à savoir que sans les consulter, elle a pris une décision qui est dilutive par rapport à leur capital. Et on parle pas de petites dilutions. Là. Il serait possible que Northern Private Capital passe, par exemple, de 25 à 40 % et Investissement Québec se retrouve avec à peu près 25 % de la société si ces débentures-là étaient converties et non remboursées. Donc, effectivement, là, c'est pas des petites proportions là, de la valeur.
Mais là, est-ce qu'avec le 40 millions, parce que revenons au sujet, tu as fait un parallèle intéressant avec Tesla, c'est le passage de, tu sais, quand tu fabriques au début, tu fabriques quasiment comme des prototypes là. Alors, moi, quand tu me dis 100 par année, le 100 quelques par année, ça veut dire un par trois jours. C'est quasiment à dire que t'es fait à la main là, tu sais, que t'es pas vraiment en mode chaîne de montage là, tu sais, genre comme les usines qu'on voit de Ford ou de GM ou de Toyota là. T'es en mode, là, on les fait un à un, alors on les monte là à la main. Et là, à un moment donné, il faut que tu passes au mode chaîne de montage plus ou moins. Est-ce que le 40 millions va permettre de mettre en place, parce que pour moi c'est ça la clé. Je pense qu'ils vont se vendre si on un bon produit, ils vont se vendre les motoneiges électriques, mais est-ce qu'ils vont pouvoir passer en mode production de masse?
Ben c'est ça la question, Mario. Puis tu sais, les derniers chiffres que j'ai trouvés par rapport à ça, en 2021, là, bon, ça fait deux ans, ces jours-ci, c'était en mars 2021, l'entreprise disait qu'elle ciblait à fabriquer 80 000 unités par année. Là, elle en a fait 104.
Tu sais, c'est un gros mais c'est un gros écart.
Ouais, ben il y a quelques zéros de différence, Mario, là. Fait que tu sais, à quelque part, bon, on espère que le 40 millions, ça va lui permettre de passer à l'échelle. Déjà, tu sais, puis souvent, les analystes, Mario, puis les bailleurs de fonds, puis les actionnaires, actionnaires, est-ce qu'ils vont regarder, par exemple, l'entreprise, elle a fait 104 véhicules l'année dernière. Est-ce qu'elle est capable d'en faire 1000 cette année? T'sais, donc, juste de multiplier par 10, même si 1000, objectivement, ça reste pas un très grand nombre. Si on voit que la direction de l'accroissement de la production est là, ben effectivement, on va avoir confiance, puis peut-être qu'on va rallonger d'autres sommes. Mais si l'an prochain, elle en a vendu 204, là, je pense que Mario, effectivement, va falloir trouver un acquéreur. Je sais que BRP, qui est dans un créneau pas très différent, souhaite électrifier certains de ses véhicules. Est-ce qu'il serait intéressé à mettre la main sur les brevets, sur la technologie, sur le design? Et après, il y a plein d'autres.
Mais c'est ce qui arrive. Si ça arrivait, des fois, c'est triste, là, parce que tu perds ton idée puis ton concept, mais ils seraient pas les premiers qui s'arrivent, là, qui développent une idée, sont capables de bâtir le prototype, mais qui ont jamais les capitaux, qui ont jamais le cash, là, t'sais, pour se donner les moyens de production qu'il faut. Parce que là, à un moment donné, faut t'en vendre. Idéalement, eux autres, faudrait qu'ils en vendent, là, de Colombie-Britannique à Terre-Neuve, puis tu sais, aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, faut que t'en sortes, faut t'occupes le marché. Puis là, ça te prend un réseau de distribution. Mais tu sais, c'est quelque chose, là, passé de, t'as une bonne idée, tu le fabriques, puis tu deviens un fabricant et un vendeur continental, là.
Effectivement, donc comme le produit est là, puis tu sais, je veux dire, Mario, honnêtement, c'est un petit jugement qualitatif. Ce sont des très beaux produits là, que fait Taiga, tu sais, au niveau de la conception, du design, ça donne envie, mais à un moment donné, il faut en livrer, et parce que sinon, ça reste sur les tablettes à dessin, puis malheureusement, ouais. Ben s'il y a pas des clients qui payent des 25 000 $ chaque fois, ben éventuellement, comme on le voit aujourd'hui, ça fait des appels à de l'argent, puis ça, c'est bon une fois, là, ce genre de carte pour sortir de prison, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir refaire ce coup-là à chaque année.
Ouais, c'est ça. L'entreprise qui est derrière Pornhub, MindGeek, qui a été l'entreprise montréalaise, qui est mondiale pour ses vidéos pornographiques, mais qui a son siège social à Montréal, qui a été largement critiquée d'ailleurs pour certaines de ses pratiques à un moment, bien vient d'être vendue.
Effectivement, puis elle est vendue, puis Mario, j'essaie de trouver de l'information à ce sujet-là, elle est vendue à une société d'Ottawa, en fait, donc ça reste sous propriété canadienne, on pourrait dire, une entreprise, un fonds d'investissement, en fait, Mario, puis qui a le drôle de nom en anglais de Ethical Capital Partners, donc partenaire de capital éthique. Oui, ethical comme éthique. Oh. Donc, ils se lancent Ethical Partners dans le domaine de la pornographie et on se rappellera, bien évidemment.
Donc, s'ils sont éthiques, ça veut dire que dorénavant, ils vont faire de la pornographie tout habillé par respect pour les femmes, c'est ça?
Exact.
Ah, bon.
Ben, écoute, j'ai lu plusieurs articles parce que ça m'intrigue, évidemment. Puis, comme tu le sais, Montréal reste là, un hub mondial là, dans la production, mais aussi dans tout le volet gestion technologique là, de cet univers-là, parfois un petit peu sombre hein, de l'humanité, mais ils possèdent là une dizaine de gros noms là, tu sais, on disait Pornhub là, mais YouPorn, etc. En tout cas, il y en a plein. Je veux pas faire de publicité pour ça, mais tu sais, donc ils possèdent énormément de gros noms de domaine dans cet univers-là. Et en fait,
il y a une bonne partie de nos auditeurs qui étaient même pas au courant là qu'il y avait ça sur le web de la porn.
Ouais, c'est toujours. Ouais, je suis sûr qu'ils découvrent ça avec la chronique économique de Francis Gosselin et Mario Dumont. Mais ceci dit, donc l'entreprise déjà avait été accusée d'héberger des contenus de pédopornographie puis aussi de contenus sexuels qui étaient avec des participants non consentants, on va dire. Et donc, ça avait amené plein de situations là, très désagréables pour la compagnie, notamment Visa et Mastercard qui avaient suspendu les paiements, ce qui rend quand même la vie un peu difficile quand tu es un opérateur de.
Mais là, eux, est-ce qu'ils sont venus, Visa, Mastercard? Est-ce qu'ils sont revenus ou ils sont toujours dans le boycott?
Je pense qu'ils sont dans le boycott, mais là tout ça est en cours évidemment, Mario, parce que l'entreprise se défend d'avoir été au courant de tout ça. Tu sais, évidemment, ça fait très mal à leur modèle d'affaires là d'avoir eu cette suspension là. Il y a aussi YouTube et Instagram qui avaient suspendu leur compte là parce qu'ils soi-disant ne respectaient pas les guides de d'usage là, alors qu'il n'y avait pas de contenu pornographique sur ces plateformes-là. C'était plutôt suggestif pour amener du trafic. Faut rappeler qu'en 2022 là, il y avait eu un long article dans le New Yorker là, très détaillé avec des témoignages là. Tu sais, c'était comme un procès là, cet article-là, Mario, et ça avait mené à la démission du PDG et au chef des opérations de l'entreprise, donc qui était resté actionnaire mais qui était plus actif. Donc, cette transaction-là, on connaît pas les montants. Mario, on se rappellera que MindGeek avait fait des acquisitions dans les milliards de dollars, là, il y a quelques années de ça. Donc, on peut penser que c'est dans les 7-8 chiffres, là.
Mais redis-nous donc le nom du fonds qu'il a acquis.
Ethical Capital Partners. Et juste peut-être pour finir sur l'éthique, justement, Mario, parce que c'est drôle, tu sais, comment des fois on tourne les choses dans les communiqués de presse, mais Ethical Capital Partners dit qu'en fait, MindGeek, c'est un leader du monde de l'Internet pour se battre contre le contenu illégal, en fait. C'est-à-dire, on fait de la porno gentille, tu vois. C'est-à-dire,
c'est ça, l'éthique, là.
Il faut jouer. C'est ça, c'est cette éthique-là, effectivement. Donc, on a l'éthique peut-être au contour un peu flou, là, dans cette entreprise-là. Mais il n'en demeure pas moins que, au moins, l'entreprise reste canadienne. Je sais pas s'il faut s'en réjouir ou non. Mais c'est une nouvelle qui me semblait pertinente de partager.
Là, il y a la banque First Republic dont on a su hier là, qu'il fallait la renflouer. Et il y a plusieurs banques. En fait, il y en a quatre grosses qui ont mis chacune 5 milliards. Ça faisait 20. Puis l'autre 10, là, ils se sont partagés sur une dizaine d'autres banques qui ont mis des montants. En tout cas, tout ça pour faire 30 milliards. On pensait qu'aujourd'hui, ça allait réconforter tout le monde sur les marchés boursiers. Mais dans le monde bancaire, pas tant, là. Pas tellement.
Non, pas tant, effectivement. Donc, faut se rappeler là que suite à la faillite là, de Silicon Valley Bank la semaine dernière, là, il y a évidemment eu une traînée de poudre dans ce qu'on appelle les banques régionales. Donc, First Republic en est une. Le prix de l'action a commencé à diminuer en fin de semaine dernière, mais là, vraiment rapidement cette semaine, on avait perdu environ 75% de la valorisation boursière de l'entreprise. Et donc là, hier, effectivement, comme tu dis, il y a JP Morgan, Citigroup, Bank, vraiment les grosses banques américaines là, centralisées qui ont, comme tu dis, mis un montant de 30 milliards de dollars en dépôt à la banque pour dire, tu sais, guys, on comme on dit en bon français, on vouch pour elle, c'est-à-dire on met notre argent là, l'argent est certain, tu sais, il n'y a pas de risque, etc. Sauf que là, aujourd'hui, First Republic, en fait, face aux obligations de liquidité qui lui incombent, puis à cause de la chute du prix de l'action, elle a annoncé qu'elle suspendait le versement de son dividende, ce qui n'était pas une très, très bonne idée, je pense. Évidemment, les actionnaires actuels sont très mécontents, mais de manière générale, le marché a très mal réagi. Donc, après avoir remonté de 10% hier grâce à l'influx de nouvel argent, elle a perdu 30% aujourd'hui en cours de séance. Donc là, on est rendu à moins 80, je pense.
Ouais, depuis, mais là, je comprends que le dividende, les gens achètent des actions des banques souvent pour le dividende. Fait que quand tu dis on ne versera plus de dividende, l'action, les gens vont peut-être la revendre. Mais de l'autre côté, le dividende, techniquement, c'est que tu partages les profits avec tes actionnaires pour les récompenser d'avoir investi dans ta compagnie. Si t'es dans la merde, il y a une logique à dire on va commencer par se renflouer, garder notre argent pour se renflouer avant de la partager avec les actionnaires, non?
Absolument.
Ben, c'est un piège,
absolument.
En fait.
Comme je te dis, c'est un piège, effectivement. Et puis, c'est juste que sur les marchés, quand on annonce, en fait, qu'on change son guidance, donc quand on change l'information qu'on déclare face à ce qui s'en vient, les marchés réagissent généralement négativement quand on parle soit d'une diminution du profit ou d'une suspension du dividende. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Là, je viens de regarder moins 32%, Mario, par rapport à hier. Là, tu sais, donc, c'est pas... ça va très mal. Depuis le début de l'année, le First Republic a perdu 81,25% de sa valorisation boursière. Donc, ça va pas très bien.
Je te pose une question. Mettons ce qu'ils ont fait, là, les plus grandes banques pour sauver. Mais ils pourront pas le faire 16 fois pour sauver les petites banques régionales une à une si ça se met à déraper.
Non, ils pourront pas. En fait, généralement, ce qui pourrait se passer, Mario, c'est plutôt l'État là qui va intervenir éventuellement pour soit rehausser le seuil de protection du capital, soit carrément mettre de l'argent, soit via des programmes d'assurance de prêt, soit carrément mettre du cash.
C'est bien populaire, ça, politiquement, donner du cash aux banques.
Non, je t'entends, mais après, là, effectivement, il y a comme une espèce de conjonction actuellement. On parlait hier de Crédit Suisse, on a parlé de Signature Bank rapidement la semaine dernière. Donc là, il faut juste comme calmer le jeu. Ceci dit, toutes les banques aussi sont dans une situation là actuellement où elles perdent en valorisation. Je regardais aujourd'hui justement les quatre qui ont prêté de l'argent, le Wells Fargo, Bank of America, ont perdu 3, 4, 5%. Puis là, on parle d'entreprises qui ont des valorisations dans les dizaines, les centaines de milliards de dollars. Quand on perd 4, 5% dans la journée, c'est pas une bonne nouvelle. Puis c'est des banques, tu sais, c'est-à-dire qu'ils ont comme souvent des réserves importantes centre de liquidité, ils sont pas en danger, mais juste parce que là, actuellement, le marché est comme dans une spirale que les banques, on a peur d'avoir peur, j'ai l'impression. Et dans le cas de First Republic, comme tu dis, c'est une bonne décision de gestion, mais ça a été très mal reçu sur les marchés. J'ai essayé d'en acheter tout à l'heure, Mario, à travers mon portefeuille d'actions, là, transigé, mais ça me chargeait 1,5% de taux de change, puis là, j'ai comme hésité.
Ça te déplu.
Finalement, je l'ai pas fait, mais je vais peut-être le faire parce que j'ai quand même un bon feeling que ça va remonter tout ça, éventuellement.
Non, mais c'est sûr que peut-être pas pour des banques très fragiles, très en danger, mais les grosses banques qui aujourd'hui, tu dis, perdent 4-5%, puis ils ont perdu dans les derniers jours dans cette crise-là. Probablement que Warren Buffett dirait, pour ceux qui ont les reins solides puis qui veulent acquérir des actions des grandes banques américaines pour leur retraite dans 30 ans, c'est peut-être des bonnes journées pour le faire, là. Ben, si, à moins de penser que le système bancaire américain va péter aux frettes, mais ce serait étonnant. Hein?
Ce serait étonnant, effectivement. Puis, tu sais, je regardais même, Mario, au Canada, en fait, là, depuis un mois, là, Banque Royale, Banque Nationale, toutes les banques cotées en bourse, ils ont perdu 6%, 7%, 8%. L'économie canadienne va à fond la caisse, les taux sont élevés, ce qui permet aux banques, généralement, de générer des bonnes profitabilités. C'est pas normal que les banques perdent 7, 8, 9% dans un mois, mais il y a comme cette espèce de frénésie actuellement sur les banques. Peut-être, encore une fois, je ne fais jamais de recommandations d'achat, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on peut regarder avec un petit peu d'opportunisme.
Un petit peu d'appétit. Hey, merci, bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine.